Made in Module, le rendez-vous de l'initiative économique dans les monts du Lyonnais.
Elle aurait été source de nourriture pour les Aztèques, qu'il appelait alors excréments du rocher. Elle contient deux fois plus de protéines que le soja et trois fois plus que la viande ou le poisson. Elle, c'est la spiruline, vitamine, bêta-carotène ou fer. Cette micro-algue de couleur bleu-vert est produite par environ 150 fermes artisanales en France. Il a décidé d'en faire son activité et a créé son exploitation baptisée Spirufil à Avez. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Jean Bazinet, son responsable. Bonjour Jean Bazinet.
Bonjour Stéphane.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Jean Bazinet, pouvez-vous tout d'abord nous parler de la spiruline? Qu'est-ce que c'est exactement et à quoi ça sert?
Alors la spiruline, c'est une micro-algue qui vit naturellement dans les lacs saumâtres d'Afrique et d'Amérique centrale. Il lui faut de la chaleur et de la lumière pour se développer. C'est une micro-algue qui se présente sous la forme de spires. Chaque spire faisant, une micro-algue fait 0,5 mm. C'est pour ça qu'on dit micro, c'est vraiment tout petit. D'accord. On ne peut la voir qu'au microscope. Et sa forme, c'est donc de spirale, d'où le nom de spirufile.
D'accord.
À quoi ça sert? C'est un aliment qui a de nombreuses propriétés. N'étant pas médecin, j'ai pas le droit de faire d'allégations santé sur ce produit. Donc je peux juste dire de quoi elle est constituée et faire part de témoignages que j'ai pu avoir de gens qui en ont consommé et qui en ont ressenti certains bien-être, certains bienfaits.
Alors qu'est-ce qu'ils ressentent justement les gens?
Alors
qui en
on s'aperçoit que l'action chez les gens dépend de ce dont ils ont besoin. C'est ça qui est très curieux. On ne peut pas généraliser une action pour cette algue. Pour certaines personnes, ça va donner beaucoup de tonus, beaucoup d'énergie. Pour d'autres, au contraire, ça va plutôt les apaiser. Donc l'effet à peu près inverse. Elle est très recherchée par les sportifs parce que ça leur permet d'être plus endurants pour l'effort. Ça leur évite des crampes et ça favorise la récupération après un effort. Donc c'est principalement recherché par les sportifs d'endurance, triathlon, marathonien, etc., qui en consomment pas mal pendant qu'ils sont en période de préparation. Pendant les courses, puisque ce n'est pas un dopant, c'est un aliment, donc ça ne rentre pas dans toute la catégorie des EPO, etc. Donc nous, entre nous, on dit que c'est un EPO naturel.
Mais c'est un aliment.
C'est un aliment, ça reste absolument
un super aliment quand on prend les...
Un super aliment, puisque c'est une notion qui a été souvent employée de super aliment. Pour vous donner un exemple de ce super aliment, l'UNESCO l'a qualifié de l'aliment le plus riche après le lait maternel. Parce qu'elle est, elle est constituée de protéines, à peu près à 60%, de vitamines, on retrouve à peu près toutes les vitamines sauf la vitamine C. Donc on conseille du coup de la consommer avec un jus de fruit, avec un fruit pour cet apport de vitamine C. Il y a énormément de minéraux, avec des dosages assez importants. Le principal, c'est le fer. Il y a des pigments. Donc, vous avez parlé du bêta-carotène. Il y a aussi la chlorophylle, la phycocyanine. Et surtout, tous ces éléments mis ensemble se renforcent l'un l'autre. Donc, agissent en synergie les uns par rapport aux autres. Donc, c'est donc que des éléments naturels. Donc, ils sont plus favorables à l'organisme que de la vitamine de synthèse. Mais en plus, l'action de l'un est renforcée par la présence des autres.
De l'autre.
C'est ça qui en fait un espèce de cocktail de super aliment.
Alors, par contre, vous nous avez dit, c'est une micro-algue, donc j'imagine toute petite. Il faut en consommer combien? Des kilos, alors, pour les effets
Non, donc elle est toute petite. Elle reste toute petite, mais bon, quand on la sort des bassins, on la filtre, etc. Et on la vend sous forme de paillettes séchées. Et on considère qu'il faut en consommer entre 4 et 5 grammes par jour, c'est-à-dire à peu près une petite cuillère. suivant la taille de la petite cuillère, la façon dont elle est bombée, ça change un peu les dosages, mais enfin, c'est pas énorme. Et surtout, c'est à chacun de trouver son dosage. Certaines personnes vont être très réactives, donc vont en avoir besoin que d'une demi-cuillère. Un sportif qui est en pleine période d'entraînement, qui va avoir un marathon ou un triathlon derrière, peut en consommer jusqu'à 15 ou 20 grammes par jour, parce que l'organisme ne va prendre que ce dont il a besoin. Donc s'il en prend trop, il n'y a pas de conséquences. C'est à chacun de domestiquer sa consommation, de s'écouter, d'apprendre comment on réagit, et puis d'adapter sa posologie.
Alors, avec toutes ces vertus, finalement, pourquoi est-ce que la spiruline est encore assez méconnue aujourd'hui ?
Alors, plusieurs raisons à ça. D'une part, elle a été découverte... Alors, elle est sur Terre, j'ai oublié de dire, depuis 3 milliards et demi d'années. Donc, c'est pas un produit neuf du tout. Elle a participé à la création de la couche d'oxygène qui nous permet à nous, mammifères, plus ou moins développés, de vivre. Elle a permis elle fait partie des premiers organismes vivants apparus sur Terre, avec plein d'autres micro-algues, elle n'était pas toute seule. Elle a permis donc de capter le gaz carbonique qui était très présent sur Terre à ce moment-là, et de le transformer en oxygène.
Donc on lui doit tout, mais elle reste méconnue.
Et ensuite, elle est tombée dans l'oubli total. Donc vous avez parlé des Aztèques. Effectivement, on a retrouvé un roi aztèque qui voulait absolument consommer du poisson frais. Et le problème, c'est qu'il vivait à 150 km de la mer. Il n'y avait pas d'avion ni rien. Donc il y avait des coureurs à pied qui couraient avec le poisson pour le...
Sous le bras, 150 km.
Voilà. Hein. Enfin, il y avait un système de relais, mais il ne pouvait faire cet effort physique d'endurance que parce qu'il consommait de la spiruline qu'on trouve naturellement dans cette région. Et le seul peuple qui en consomme encore actuellement, c'est donc les Kanembeu, qui sont une tribu autour du lac Tchad. Et c'est grâce à eux qu'on a retrouvé qu'on a découvert cette spiruline et ses avantages, puisque dans les années 50-60, les ONG se sont aperçus au cours de famines que les gens autour du lac Tchad vivaient mieux, il y avait moins de mortalité, moins d'enfants malnutris, que dans le reste des environs. Quoi. Et ils se sont aperçus que les femmes récoltaient cette spiruline, enfin cette espèce de boue verdâtre à la surface du lac, le faisaient sécher dans des cuvettes en sable sur la rive, et le consommaient en le mélangeant à leur alimentation.
Et c'est à partir de là qu'effectivement on a redécouvert ses vertus.
Ils ont goûté. Ils ont été malades comme des chiens, parce que bon, forcément, au point de vue...
voilà. Ça a mis quelques années de plus.
Mais ils ont été plus loin que leur première réaction. Et donc, ils ont fait faire donc, des analyses, et ils se sont aperçus de la richesse de cette algue. Et du coup, ils ont aussi, puisqu'en fait c'est comme ça qu'elle a commencé à être cultivée, c'est pour que deux personnes, donc Jean-Paul Jourdain et Ridley Scott, ont mis au point la méthode de culture pour la cultiver en dehors du milieu naturel.
Alors justement, on va en parler, parce que vous avez décidé d'en faire votre activité, cette culture. Comment est-ce qu'on la produit, la spiruline ?
Alors pour la produire, on monte une serre, parce qu'elle a besoin de chaleur et de lumière. Il faut que l'eau du bassin, l'optimum, c'est à 37 degrés.
Alors déjà, on a un bassin, alors. Donc il vous faut un bassin.
Il faut un bassin, il faut une serre, sous la serre.
Il faut un mètre d'eau, il faut 2 mètres.
Il faut 10 à 12 centimètres d'eau, ça suffit. Parce qu'elle a besoin de passer de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire qu'il faut, on agite le bassin, et pour lui faire des mouvements où elle monte et elle descend, comme ça, un coup, elle prend l'oxygène, elle fait la photosynthèse, et puis elle replonge, elle relâche, elle fait toute sa petite vie tranquillement.
Donc, des bassins, des serres. Oui.
Ensuite, on pompe cette eau avec la spiruline, on la filtre dans un filtre à 30 microns. On obtient ce qu'on appelle une biomasse, c'est-à-dire c'est une espèce de boue très liquide vert. Et cette boue, on va la presser pour enlever à peu près 60% de son volume qui est de l'eau. Donc on expulse toute cette eau. Et on obtient là une espèce de pâte qui a à peu près la consistance de la pâte à modeler, qui est donc quelque chose de beaucoup plus ferme, que l'on extrude, c'est-à-dire on le passe dans un poussoir à saucisses dont on a modifié la sortie pour sortir sous forme de petits filaments que l'on dépose sur des clés Donc c'est des cadres en bois avec une moustiquaire par-dessus. Et donc on fait voilà, de plusieurs passages pour répartir les spaghettis sur la clé. Et ensuite on fait sécher cette spiruline dans un séchoir qui est donc une pièce fermée dans laquelle on fait un énorme courant d'air et on fait rentrer de l'air chaud. Pas trop chaud, puisqu'on essaie de ne pas chauffer à plus de 42 degrés pour ne pas abîmer la spiruline et détruire les vitamines principalement qui sont dedans. Une fois que c'est sec, au bout de 6 ou 7 heures de séchage, on...